Weight Watchers now offers access to affordable GLP-1s. It works for members like...
I'm Haley, and I've lost 100 pounds. Weight Watchers has everything I need, from weight loss medications to nutrition support and help with my side effects. It's all in one place.
Weight Watchers handles the insurance for you and offers affordable cash pay options. With our program, our members are losing more weight with expert nutrition and side effect support.
I'm Mike, and I've lost 135 pounds. Weight Watchers prescribing GLP-1 medications, it's been life-changing.
I'm Sharia, and I lost 80 pounds on Weight Watchers. I realized that it would take more than a prescription to lose weight and feel good on a GLP-1.
Better results, expert support, lose more weight, make it last.
I can't imagine doing a GLP-1 without Weight Watchers.
Get started for as low as $25 at weightwatchers.com/GLP-1.
Medications require eligibility and prescription. Patients on 15 milligrams of tirzepatide had an average of 21% weight loss in a 72-week clinical trial when paired with diet and exercise. First month as low as $25 with a 12-month MedPlus plan. Does not include the cost of GLP-1 medications.
Section 11 de La Science et l'Amour par Léontine Zanta. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Pauline Latournerie. Vendredi 23. Philippe est resté levé presque toute la journée. Les forces lui reviennent avec une rapidité qui nous étonne. Vers le soir, nous avons eu la visite de l'aumônier. J'étais contente de voir de près cet homme qui m'était apparu sous un jour de véritable apôtre à la chapelle. Philippe et ses camarades ne semblaient pas apprécier comme il fallait sa réserve. Sans doute il ne fait pas d'apostolat à grand fracas, il n'abuse pas de l'éloquence apostolique. Il passe simplement près des lits, donne la bonne parole, celle d'un homme qui s'intéresse à la souffrance d'un autre homme. Il sait bien que cette manière vaut mieux que tous les sermons. Quel épanouissement dans sa physionomie, quelle bonhomie lorsqu'il s'est approché de nous. Il a pris une chaise tout près du lit de Philippe, lui disant gaiement, avec un éclair de joie dans ses yeux gris, « Mon cher sergent, vous voilà hors d'affaire, vite que je vous félicite. Savez-vous, mademoiselle, qu'il l'a échappé belle, votre frère ?» Dimanche à votre arrivée, sœur Adrienne n'était pas rassurée et m'a recommandé de prier tout spécialement pour lui à la petite chapelle, à la messe de 11 heures où vous avez assisté. Et voilà que tout s'est arrangé. Oh, la foi, mademoiselle, la prière de la foi, si l'on pouvait mesurer sa puissance.
Philippe et moi, nous nous regardions très émus. Nous comprenions maintenant le prêtre, nous comprenions sœur Adrienne, nous comprenions ce double ministère, cette entente dans la foi charitable qui se fait sans bruit, sans grande parole, sans démonstration, par la chaleur du cœur qui dilate, agrandit l'être pour embrasser les autres êtres et les porter jusqu'à Dieu. « Merci, monsieur l'aumônier, dit Philippe le premier. Vous ne pouviez mieux faire, ni sœur Adrienne non plus. Aussi, ma première sortie sera pour la chapelle. » « Et pour la cellule de l'aumônier, ajouta ce dernier en riant, dimanche je vous invite à y prendre le thé. » Il se leva, lui serra la main, puis se tournant vers moi. « Mademoiselle, vous accompagnerez votre frère, n'est-ce pas ?»«
Certainement, monsieur l'aumônier, avec joie. Seulement dimanche, c'est le jour du retour à Paris. De bonne heure, il faudra que je vous quitte. »
« Ce sera donc le thé d'adieu, ou d'au revoir, car vous reviendrez le chercher, et ce ne sera pas long. Je ne vous donne pas 8 jours avant que votre malade soit capable de supporter le voyage d'Amiens à Paris. Et vous retrouverez votre foyer, mon cher ami, et votre mère, dont ma chapelle recevait la bonne visite chaque matin, et votre père, et vos 2 charmantes petites sœurs, car je connais toute la famille, dit-il avec un bon sourire, et il nous quitta. Je le vis alors se glisser de nouveau auprès des malades, le long des lits. Sa figure avait repris son expression grave, un peu triste. Cette idée du retour à Paris nous avait mis de la joie au cœur. Toute la soirée se passa à faire des projets. C'était la bonne vie de famille d'autrefois qui allait reprendre enfin. Samedi 24. Un temps radieux, comme il en fait parfois en février, où le soleil nous avertit que le printemps est proche, tandis que dans les profondeurs de la terre, sous sa bienfaisante chaleur, la première sève dans les racines doucement s'élabore. J'arrivais toute joyeuse auprès de mon blessé. Il devait faire sa première promenade dans le jardin. Sœur Adrienne, après sa tournée de malade, viendrait nous prendre. À 11 heures, elle était là. Et Philippe, avec notre aide, descendit jusqu'au premier étage. Se sentant plus de force à mesure qu'il en dépensait, il dégagea tout à coup son bras de celui de sœur Adrienne et lui dit en riant, « Je n'ai plus besoin de vous, ma sœur. J'ai retrouvé à moitié mes ailes.
Allez, ne vous fatiguez pas à descendre et à monter 20 marches encore. Mad me soutiendra. »
Sœur Adrienne eut d'abord une figure déconcertée. Philippe avait voulu lui épargner une peine. Il n'avait point compris qu'il lui enlevait une joie. Elle se résigna pourtant, habituée qu'elle était à se renoncer toujours. Elle dit simplement « Eh bien, allez, je vais m'arrêter à la salle des grands blessés, mais dans une heure j'irai vous chercher. Au retour, vous n'aurez pas trop de 2 bras pour vous soutenir. » Nous arrivâmes dans le jardin. Cet air piquant d'un matin d'hiver, mais que le soleil rendait si tonifiant, donna à Philippe comme une sorte d'ivresse. Il ouvrait toute grande sa bouche pour mieux en emplir ses poumons. Il tournait au soleil son pauvre dos brisé. Toujours à mon bras, il le serrait de temps en temps avec force et s'écriait « Oh, Mad, que c'est bon la vie quand on la sent renaître en soi, et dire que j'aurais pu la perdre !» Nous suivions l'allée tout ensoleillée qui longe le bâtiment, nous mettant à l'abri du vent froid qui soufflait du nord. Nous tournions autour de petits massifs où quelques tiges aux rares feuilles vertes s'élevaient encore, et Philippe les admirait. Il aurait volontiers, comme le saint d'Assise, chanté son frère le soleil, sa sœur la terre, la nature tout entière qui lui donnait cette sensation admirable de se sentir vivre. Ce fut 1 heure d'enchantement. Puis nous aperçûmes à la porte entrebâillée la cornette de sœur Adrienne. « Pas d'excès aujourd'hui, monsieur Philippe, » s'écria-t-elle. « Si vous voulez demain matin la messe, demain après-midi le thé chez monsieur l'aumônier. » À cet appel si calme, si ferme, il fallut obéir. Cette fois, s'appuyant sur nos 2 bras, Philippe remonta assez lentement les 2 étages, un peu étourdi par cet air enivrant et par sa première promenade. Presque tout l'après-midi, il dormit, et lorsque je le quittai, il fut convenu que le lendemain matin, je serais là pour le conduire à la messe. Dimanche 25 février. Il est minuit. Tout le monde dormait à mon retour, et je n'ai voulu réveiller personne. Je suis seule dans ma petite chambre d'étudiante. Elle me paraît triste. J'y suis comme une étrangère. La vie trop intellectuelle qu'elle me représente paraît si froide auprès de celle que j'ai menée toute une semaine. Oh, cette petite chapelle pendant la messe ce matin, elle était toute illuminée de foi et de prière. Je vois encore Philippe au banc des convalescents, son dos un peu voûté, ses yeux levés vers le tabernacle où sa foi adore le Christ qui apporte la vie. L'aumônier, le visage très doux, plus vivant qu'à l'ordinaire, joint ses mains et nous regarde avec tendresse en prononçant « Orate, fratresse ». Tout autour de moi, les petites sœurs, aux coiffes inclinées, prient ardemment, amoureusement. À ce souvenir, mon âme de nouveau se fond dans un élan de reconnaissance vers ce Dieu qui a sauvé mon frère. Puis c'est l'après-midi. Pendant que Philippe se repose, je cours à mon hôtel faire de l'ordre, régler ma note, boucler ma valise. Le train part à 6 heures, je n'ai pas de temps à perdre. À 4 heures, nous entrons chez monsieur l'aumônier. Je suis frappée de la simplicité de sa petite cellule. Elle ouvre par une large fenêtre sur le jardin. Un mobilier rudimentaire, un lit de fer que de vieux rideaux de cretonne passés, trop longs et trop étroits, essaient en vain de masquer. Dans le mur, 2 grandes armoires, comme il y en a dans les vieilles maisons. L'abbé en ouvre une, elle était pleine de livres. « Voilà mes sermons, » dit-il en riant. Et comme je regardais les titres, il ajouta « Soyez tranquille, mademoiselle, vous ne trouverez ni livres de dévotion ni ouvrages philosophiques. Ce sont des romans, oui, de vieux romans de cap et d'épée, des romans de chevalerie, la belle pièce de Cyrano, des mémoires, des revues. Quant aux livres de guerre, ils sont en petit nombre. On ne les lit que s'ils sont drôles, ils ne veulent rien des horreurs de la guerre, nos poilus, ils en ont assez vu. D'ailleurs, ici, nous n'avons point d'intellectuels. Ce qu'il y a de mieux est dans votre salle, monsieur Philippe. »
« Alors ce n'est pas très intellectuel, » reprend ce dernier. « En dehors du petit sergent que ne quitte pas sa femme et qui est, je crois, un jeune avocat, nous avons un loueur de voitures, un marchand de journaux, un rempilé, un colonial, moi, et ça fait le compte. Mais dans les autres salles, monsieur l'abbé ?»« Ce sont de braves gens, qui savent lire juste assez pour s'enthousiasmer, et qui trouvent là un prétexte pour venir causer avec moi, fumer une cigarette, prendre une tasse de thé et me dire parfois des choses bien émouvantes. » Cependant,
L'eau chantait dans la bouilloire que le bon abbé avait installée sur le rebord de la fenêtre, car il n'avait pas d'autre table. D'une de ses grandes armoires, il tira sa petite théière de porcelaine, trois tasses et une bouteille de rhum à demi pleine.
« Ça, c'est pour vous aider à vous remonter, monsieur Philippe, et vous, mademoiselle, à ne pas être trop triste en le quittant. »
Très en train, très gai, tandis que nous dégustions avec plaisir ce thé excellent, le bon abbé se mit à me pousser un vrai petit interrogatoire. Il me parla de mes études, de mes compagnes, de la grande nouveauté des femmes introduites comme professeurs dans les lycées de garçons. Il n'est pas féministe, monsieur l'aumônier, tout en étant doux et pacifique. Il n'a pas confiance en nous. Il se méfie de notre sensibilité qui ébranle notre volonté et nous expose à toutes les surprises. Comme presque tous les prêtres, il connaît la femme par le confessionnal, c'est-à-dire faible, pécheresse. Il ne la connaît pas forte. Il ne connaît pas notre élite d'étudiantes. « Elles vont en inconnu aux prêtres, les intellectuels, lui dis-je. Elles redoutent une direction. Elles voient trop l'homme dans le directeur et pas assez le ministre de Dieu. Alors, conscientes de ce qu'elles valent moralement, elles répugnent à se confier à lui. Mais elles sont capables de volonté, capables de tenir une classe, même de 30 grands élèves s'il le faut. » Et je lui citai l'exemple de Marie le Sage, dont j'avais été émerveillée. L'abbé m'écouta, mais ne fut pas convaincu.
« C'est une exception, dit-il, qui ne prouve rien en faveur de la masse. »
Il est comme Philippe. Il croit au succès d'une élite, d'une toute petite élite, et c'est tout. La femme appelée à remplir dans la société les mêmes fonctions que l'homme sera toujours malheureuse, selon lui. Philippe et monsieur l'abbé auraient-ils vraiment raison? Voilà que ce soir, moi aussi, je me sens ébranlée. Au moment de reprendre mon travail absorbant d'étudiante, je le remets en question. Est-il bien celui qui me convient? J'ai vécu durant ces 8 jours d'une toute autre manière et j'étais plus heureuse. Oui, mais durant 8 jours seulement. Et alors je discutais avec un frère intelligent de maintes questions intellectuelles. Je discutais en mon journal, je lui confiais sans cesse des idées nouvelles. La vie de l'esprit, une fois qu'on s'y engage, vous tient. Elle devient la seule raison de vivre. On goûte une telle ivresse à voir s'élargir des horizons toujours nouveaux qu'il n'est plus possible de s'arrêter pour reprendre haleine, encore moins de rebrousser chemin. Mais il n'est pas dit pourtant que le développement de l'esprit ferme le cœur aux émotions tendres. C'est l'expérience qui me reste à faire. Ce soir, mon cœur, tout à la joie d'aimer, me redit que je suis près de Jacques et que demain je le reverrai. Lundi 26 février. Mon Dieu, quelle journée pleine! Toute ma tristesse a disparu. Je trouve ma petite chambre gaie, vivante, inondée de lumière. J'aime la vie car j'aime ma vie, mon milieu familial, mes camarades, mes livres, mon dur labeur. Jusqu'à mon petit crétin d'élève qui m'a paru intéressant aujourd'hui, car j'ai bien voulu regarder son âme. Elle est simple, mais qu'importe. De là aussi peut sortir de la beauté, pour peu que je sache la dégager. Notre déjeuner fut ce matin une vraie petite fête familiale. À 8 heures, nous étions tous groupés autour de la grosse table de chêne. Les petites avaient devancé leur habituel du réveil. Mad avait tant de choses à raconter. 8 jours, elle avait vécu à l'hôpital avec des blessés, avec Philippe, c'était une chose extraordinaire. Alors il m'a fallu tout narrer. Mes inquiétudes au sujet de mon frère, les soins admirables de sœur Adrienne, la messe à la petite chapelle, la première promenade, le thé chez monsieur l'aumônier. On ne me faisait pas grâce des moindres détails. Quel joli médaillon formait ces 4 têtes attentives qu'une même émotion sculptait différemment. Suspendue à mes lèvres, la bouche ouverte, les yeux brillants, Jacqueline et Geneviève ne perdaient pas une parole. Maman avait ses grands yeux mélancoliques voilés de larmes, et papa, souriant, n'avait plus cette expression dure et austère que souligne à l'ordinaire son menton énergique sous sa bouche droite. Philippe allait bientôt revenir. La vie pourrait donc reprendre quelque chose de sa physionomie d'autrefois. Puisqu'un des nôtres avait échappé à l'horrible massacre, nous pouvions croire maintenant en notre bonne étoile, en l'heureux destin, en la bonne providence, disait ma mère. Puis ce fut la joie, l'enivrement du revoir. Je venais de franchir le seuil de notre maison quand il me sembla distinguer devant l'église Saint-Jacques une silhouette mince, élégante, et je sentis aussitôt un petit choc au cœur. Je ne me trompais pas. C'était la silhouette bien connue de mon petit ami. Il accourait vers moi, la mine radieuse, le teint animé, les yeux illuminés de sa joie intérieure. Il me prit la main, et dans l'éclair qui jaillit de nos deux regards, nos âmes se mêlèrent si bien qu'il nous parut superflu de parler d'amour. « Eh bien, Mad, s'écria-t-il, ce voyage, comment s'est-il effectué? Et de votre frère, quelle nouvelle? Vous avez eu de graves inquiétudes, je l'ai su par Betty, mais il est hors d'affaire maintenant, et vous allez l'avoir auprès de vous pour une longue convalescence. Comme je me réjouis de le connaître, j'admire tant ceux qui ont souffert pour nous. Ce sont de vrais frères, et celui-là est frère doublement, » ajouta-t-il tout bas avec de l'émotion dans la voix. « Il reviendra dans 15 jours au plus tard, » repris-je, « sa convalescence est rapide. Il a tant de vie, mon cher petit frère, tant d'entrain. Il a l'âme simple, gaie, limpide d'un enfant. C'est une eau vive jaillissant de sa source. Les torrents boueux ne l'ont pas ternie. C'est Méruel avec 10 ans de moins. » Pauvre Méruel, vous savez qu'il est très inquiet en ce moment. Betty aussi, du reste. On craint beaucoup pour Reims, et Reims, c'est tout leur bien. Ils sont fiancés, n'est-ce pas, Jacques?
Ils sont fiancés comme nous et ne disent rien. Fiançailles née de la philosophie de la guerre.
Ah, la belle philosophie qui met les âmes à nu et leur apprend le sacrifice, comme elle prépare bien à l'amour.
L'amour avec des ailes, repris-je en riant, car si je cherche bien sur quel coin de terre solide le nôtre pose ses petits pieds, je n'en trouve point.
Et moi non plus, ajouta Jacques. Alors, en voulons-nous à tire-d'aile?
Il me prit le bras et je le laissai faire. Il m'entraînait si bien que je croyais marcher sans toucher terre. Nous approchions de la Sorbonne, il fallait reprendre pied. Kant apparaissait, débouchant de la rue des Écoles, au moment où nous allions nous engager sous la voûte.
« Kant, sans Gretchen ? » m'exclamai-je. « Y a-t-il brouille au ménage ?»«
Je le crains, » dit Jacques. « Gretchen vient de moins en moins et Kant est tout désemparé. Mais c'est Germaine qui nous inquiète, elle est dans une mauvaise passe. On dit qu'elle s'est montée la tête pour une étudiante en médecine, jeune, belle, intelligente, qui est descendue à la même pension de famille qu'elle. Elle souffre d'une amitié excessive. Essayez de la reprendre un peu, Mad. Au fond, Germaine est une bonne nature, elle nous aime, elle a du cœur, elle essaie de crâner, de faire croire qu'elle n'en a point, c'est ce qui la mine. « N'est-ce pas, Betty, qu'il faut sauver Germaine ?» cria Jacques à Betty qui arrivait.
« Chut !» fit Betty, plus jolie et plus fraîche que jamais en ce matin froid qui la colorait comme une rose. « Elle vient derrière moi avec Alice Bernard. »
Et nous voilà réunis tous les cinq, échangeant de cordiales poignées de main. Je suis gaie, joyeuse de les retrouver tous. Méruel arrive le dernier.
« Eh bien, » dit-il gaiement en interpellant Germaine, « l'orateur est-il en forme ? Que va-t-il nous apprendre au nom d'Aristote et de Stuart Mill sur le bonheur ?»«
Que ce bonheur n'existe pas, » répondit sèchement Germaine. Je l'ai regardé alors, j'ai été frappée de son visage amaigri, de son teint mat devenu jaune, de son profil en lame de couteau, plus dur qu'à l'ordinaire. Nous entrâmes dans l'amphi, chacun prit sa place, puis notre professeur, aimable, correct, plein d'urbanité, donna la parole à Germaine. Silence parfait, impressionnant même. Nous étions tous attentifs. Les jeunes gens, un peu railleurs, se demandaient ce qu'une femme aussi sèche pourrait bien dire sur le bonheur. Les jeunes filles exprimaient par leur attitude une certaine satisfaction. C'était une sœur qui parlait, qui faisait office de maître en Sorbonne. Cela pouvait faire illusion, et l'imagination aidant, donnait matière aux rêveries féministes. Les premiers mots que prononça Germaine furent ternes, sans timbre. Elle était mal à l'aise, on le sentait. Ce qu'elle exprimait était pourtant clair, intelligent. Elle opposa très justement les deux méthodes, celle du philosophe naturaliste, Aristote, celle du philosophe uniquement psychologue, Stuart Mill. Elle analysa finement, avec ce dernier, le concept du bonheur. Mais ce qui nous étonna tous, ce fut la chaleur qu'elle apporta à ses conclusions. « Ce bonheur, s'écria-t-elle avec feu, ce bonheur auquel doit participer tout l'être, un philosophe doublé d'un biologiste seul peut le comprendre. Si Aristote était un grand philosophe, l'état des sciences naturelles, trop peu avancé en son temps, ne lui permettait pas d'être un grand biologiste. Stuart Mill n'était que psychologue. Comment aurait-il pu l'un et l'autre trouver la formule du bonheur sans connaître le sens de la vie? Or, le sens de la vie échappe au psychologue penché sur sa conscience, la fouillant sans cesse avec le scalpel de l'analyse. Il échappe aussi au philosophe emporté par ses rêves de poète,
dans les nuages de la métaphysique. La science seule trancherait la question, si elle pouvait un jour dire son dernier mot. Mais comme elle ne le dira jamais, nous ne serons jamais rien de définitif. Nous ne serons jamais heureux. Et elle se tut. Une émotion profonde s'empara de moi. Le scepticisme de Germaine avait pris dans la souffrance des accents de véritable éloquence. Aussi, au lieu d'écouter la critique du maître, je pensais en moi-même qu'il fallait aimer Germaine, lui redonner confiance dans la vie, foi au bonheur. Je comprenais tout le drame intime de cette existence, liée à un physique ingrat, dont la pauvre petite n'était nullement responsable. Beau cerveau dans un corps sans grâce. Rien de ce qui attire, rien de ce qu'on aime, et pourtant, une sensibilité très vive et de la fierté. Voilà Germaine. Elle avait fait le beau joueur jusqu'à présent, méprisant ce qu'elle ne pouvait avoir. Elle était à bout. Il fallait l'aider dans cette passe, l'aimer davantage, opposer amitié à amitié, ou plutôt coordonner nos amitiés en un réseau qui l'enveloppa pour la sauver de l'amitié unique, dangereuse et décevante. Sans doute nos pensées à tous furent à l'unisson, car après le cours, les habitués du petit cercle de Stahl, ainsi que Jacques et Méruel, l'entourèrent, la félicitèrent chaudement. Elle eut certes de la joie de son succès. Betty lui fit même une grande déclaration d'admiration. « Germaine, s'écria-t-elle, maintenant l'honneur du collège de Stahl est sauf. Je n'éprouve donc plus aucun besoin de le défendre, et ma leçon sur l'attention que j'ai déjà remise, Dieu sait combien de fois, est reportée à l'infini. » Et nous fîmes tant et si bien qu'un sourire illumina la pauvre figure de Germaine, et qu'elle nous dit en nous quittant « S'il n'y a pas de bonheur dans la vie, il y a tout de même de bons et vrais amis. » Fin de la section 11, enregistrée par Pauline Latournerie. Section 12 de La science et l'amour par Léontine Zanta. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Pauline Latournerie. Mardi 26 février. Comme je me sens épanouie. Parfait équilibre au-dedans, parfait équilibre aussi chez Jacques. Nous ne pensons qu'à travailler et à répandre de la joie autour de nous. Plénitude, harmonie. J'ai confiance en la vie car j'ai confiance en l'amour. Il me semble qu'ainsi, je vis selon la loi de ma nature. J'ai ouvert ce soir mon imitation de Jésus-Christ et j'ai lu ce passage. Certes, l'amour est quelque chose de grand et un bonheur inexprimable. Il ne sent point la pesanteur des plus lourds fardeaux. Il change en douceur les plus grandes amertumes. Le travail ne le lasse point. Il n'est point embarrassé de la multitude des affaires. La crainte ne le trouble point. Il est vif, ardent comme le feu. Il s'élève au-dessus de tout et franchit tous les obstacles. L'auteur de l'imitation de Jésus-Christ a merveilleusement compris les effets de l'amour. De l'amour divin, c'est vrai, mais ces deux amours ne sont-ils point de même essence? L'amour humain n'est-il point l'amour divin taillé à notre mesure? C'est le grand courant de vie, capté pour un temps dans nos pauvres âmes humaines. Il les brise s'il ne les élargit au point qu'elles deviennent capables de tous les autres amours. Voilà pourquoi l'amour humain, en s'en allant, laisse tant de mélancolie, parfois d'amertume. Et pourtant, si nous le voulions bien, l'amour ne nous quitterait jamais. Pour cela, il faudrait choisir son objet sans cesse plus aimable, jusqu'à ce qu'enfin, il devint Dieu. Jack comprendra-t-il jamais cette philosophie? Il n'y en a point d'autre pourtant. C'est la seule philosophie du bonheur. C'est aussi la seule philosophie de l'amour. 10 mars. C'est bien vrai, quand on est heureux, on n'en a rien à dire. Voilà mon journal muet depuis 10 jours. Je n'y comprends rien. Mes journées ont été remplies pourtant, remplies à déborder. Mais aucun fait saillant, surtout aucune grande souffrance qui m'est obligée à prendre la torche et à la porter au-dedans. Il n'y a que la souffrance qui puisse servir de merveilleux instrument d'analyse. Le bonheur, c'est l'équilibre, l'harmonie. C'est la vie qui se contente de vivre et qui n'a pas besoin de se raconter. Demain, grand événement pourtant, retour de Philippe au foyer. Le dîner de convalescence et je suis presque seule à le préparer. 10 heures sonnent, je vais me reposer. Demain, dès 6 heures, je serai sur pied car maman prend le train de 8 heures pour Amiens. 11 mars. Je n'ai presque pas dormi cette nuit, tant j'étais accablée de ma responsabilité de maîtresse de maison. Maman m'avait laissé toutes les libertés. Le beau linge blanc était à ma disposition, l'argenterie, les verres. C'était pour nous un jour de fête, une halte d'un soir dans la chevauchée haletante de la guerre. Pierre, pourtant, ne serait pas là. Et Jacques non plus, ce troisième fils que personne ne soupçonnait. Mon Dieu, quand le reconnaîtra-t-on, celui-là? Une barrière séparait nos deux familles, deux milieux si différents. Et pour que notre mariage, ou tout au moins nos fiançailles, se fissent, il aurait fallu renverser cette barrière. Jacques seul pouvait le faire. Mais en aurait-il la force? Pour la première fois, une angoisse me venait qui me serrait la gorge. Jacques, depuis mon retour, ne m'avait point parlé des siens. C'est donc qu'il n'avait rien dit à son père. Sans doute, comme tous les faibles, il remettait cet aveu. Cette pensée non seulement me faisait mal, mais produisait en moi un mouvement d'indignation et de colère. L'amour ne donne-t-il pas de la force aux faibles, de l'audace aux timides, de l'éloquence aux silencieux? Alors si l'amour de Jacques était incapable de cette métamorphose, il était pauvre, misérable même. L'arrivée de Philippe mit fin à cette émotion. Et de fait, ma peine disparut lorsque nous fûmes tous les six groupés autour de la table dont j'avais fait un vrai bijou. Tout au milieu, dans un vieux vase de cuivre, des anémones ouvraient leurs corolles aux vives couleurs, des branches de mimosa jetées çà et là, rayons de soleil captifs dans le fin feuillage moussu, perles jaunes dans leur écrin de satin vert, nous grisaient de lumière et de parfum. Les carafes, disposées sur des rondes dentelles, reflétaient dans leur cristal le rouge du cuivre, le mauve, le carmin et le grenat des anémones. Elle était vraiment accueillante et gaie, notre table ainsi parée. « Sais-tu, Mad, ce qui nous manque ici ?» s'écria tout à coup Philippe pendant que nous prenions le potage. « Sœur Adrienne et Monsieur l'aumônier, nous les aurions mis tous deux en face l'un de l'autre pour présider la table et nous les aurions servis. Ils ont assez longtemps et avec assez de dévouement servi jusqu'ici les autres. » Cette réflexion amena des questions sans fin de la part des petites sur Sœur Adrienne et Monsieur l'aumônier. Philippe n'était jamais à court. Il avait l'imagination toute pleine des histoires d'hôpital. Papa trouva même qu'il en comptait trop. « Dis donc, petit, tu vas nous oublier tout cela maintenant et reprendre ton travail. En 2 mois de convalescence, tu as le temps de revoir tous tes cours. Rien de meilleur pour te remettre d'aplomb et oublier le cauchemar de la Grande Guerre. » C'était l'ancien élève de centrale qui parlait ainsi et voulait revivre en son fils, mais ce dernier ne le comprenait plus. « Non, papa. Je ne reverrai pas mes cours. L'heure n'est pas encore venue de reprendre la vie intellectuelle pour nous soldats. Nous en sommes toujours à la vie profonde, car demain ne nous appartient pas. Les chiffres, le métier, ce sera pour après la victoire et pour ceux qui reviendront. » Cette réflexion assombrit le front de mon père. Ce fut la seule note triste dans la symphonie joyeuse de la table familiale. Lundi 12 mars. Malgré moi, en revoyant Jacques aujourd'hui, j'ai été reprise du soupçon d'hier. Non, je n'ai plus aucun doute. Il n'a rien dit de nos projets chez lui. Est-ce de la faiblesse? Est-ce de la sagesse? Mais pourquoi tant me tourmenter? C'est lui qui doit avoir raison. Il connaît son père et il perdrait peut-être tout à vouloir tout risquer. Mon Dieu, comme j'ai de la peine à me résigner aux lenteurs de l'attente, à croire à l'amour s'il ne fait des miracles. Tout au fond de moi-même, je voudrais déjà que le caractère de Jacques fût transformé, et mon attitude à son égard se ressent de cet inconscient désir. J'ai moins d'abandon. Jeudi 15 mars. J'ai revu ma petite amie Renée Labasse. Les permissions pour Paris sont supprimées à son hôpital. Comme elle a voulu quand même venir prendre sa leçon, elle a usé d'un stratagème. Elle est venue de Noisiel dans le petit panier automobile du service de radio. Sous sa grande cape, son voile bleu flottant au vent, elle ne pouvait éveiller aucun soupçon, tandis que son camarade, sans s'arrêter, jetant au passage le mot convenu, ne laissait pas aux hommes des postes le temps de se demander quelle pouvait bien être la mission de confiance de cette jeune femme qui l'emportait mystérieusement dans un tourbillon de poussière sur la grande route vers la capitale. Quelle heure merveilleuse nous avons passée ensemble! Oh oui, je le reconnais, et sur ce point je donne pleinement raison à Alice. L'enseignement compris comme je viens de le faire est un enchantement. Il n'est besoin d'aucun effort pour s'adapter. Professeurs et élèves sont sur le même plan. Alors on se développe ensemble, on monte en cherchant à deux la solution d'un même problème. Nous avions à discuter aujourd'hui la question de la mémoire. J'avais travaillé à cet effet pendant plusieurs soirées le magistral ouvrage « Matière et mémoire » de M. Henri Bergson. Je me sentais donc toute prête à lutter contre les préjugés matérialistes qu'aurait pu m'opposer ma grande élève au cas où elle eût déjà subi l'influence des savants docteurs qui l'entourent à l'hôpital. Il n'en fut rien. Je n'eus pas à la combattre. Tout au contraire, René est venu fortifier, par le récit de nouvelles expériences, certaines conclusions du maître. « Je ne comprends pas, me dit-elle, le matérialisme de nos médecins. À chaque instant, le parallélisme entre les deux séries de faits, faits physiologiques et faits psychiques, nous échappe. Sans doute, à telle lésion du cerveau correspond tel trouble dans la mémoire, mais quelle puissance merveilleuse que celle d'une faculté qui trouve d'elle-même pour se manifester des ressources nouvelles sans que la matière ait à réparer ses pertes. Cette résurrection de l'esprit après son ensevelissement, c'est un drame. J'en fus témoin l'autre jour. Je vais vous raconter comment. J'avais parmi les blessés de ma salle un jeune étudiant philosophe. Blessé à la tête, il avait subi une opération grave et difficile. Elle avait réussi pourtant. Il ne restait plus qu'à laisser le temps faire son œuvre, dans un repos complet. Ce malade m'intéressait. J'aurais voulu suivre les progrès de sa guérison, mais impossible, j'avais beau passer et repasser plusieurs fois par jour devant son lit, il avait toujours les yeux clos sous son casque blanc, qui laissait à peine libre la moitié d'une figure très pâle et fine. Ce sommeil perpétuel me paraissait anormal et pourtant je n'osais rien dire. Hier, tandis que je faisais ma tournée habituelle, en approchant du lit, je vis que les yeux n'étaient plus fermés. Il me regardait fixement et semblait m'interroger. « Eh bien, demandai-je, cela va donc mieux ?»«
Oh, mademoiselle, s'écria-t-il, je suis guéri, je suis sauvé. Si vous saviez ce que j'ai souffert d'être ainsi muré au-dedans de moi-même. » Vivant au milieu du monde extérieur, je le voyais encore, mais je ne comprenais plus sa voix. C'était une affreuse solitude, et je me demandais si cette solitude ne durerait point toute la vie. Mais parlez-moi longtemps, je comprends vos paroles, elles ont un sens, une âme. Je l'ai faite maintenant, cette douloureuse expérience de surdité verbale, autrement que dans mes livres, et je puis affirmer que la pensée qui a pu ainsi triompher de la matière est autre chose qu'un mécanisme. J'avais si peur qu'elle ne fût que cela. »
Que faut-il de plus, conclut René, pour croire à la puissance créatrice de l'esprit, à sa victoire définitive sur la matière, à notre résurrection future? Oui, elle avait raison, et c'est elle qui, aujourd'hui, m'a donné le meilleur de la leçon. Nous avons eu cet après-midi notre petit cercle d'études S lettres latines. Germaine et Alice en font partie maintenant, alors il a fallu abandonner ma chambre pour la bibliothèque. C'est moins intime, mais nous bavardons moins et nous travaillons mieux. De toute ma journée, c'est l'heure que j'ai passée avec René Labasse qui me laisse l'impression la plus profonde. Cette vision d'immortalité autorise tous les espoirs, tous les rêves de bonheur. Je tiens moins au bonheur d'ici-bas. Pauvre Jacques, il y perd. Il ne m'apparaît plus ce soir comme l'unique raison de vivre. Vendredi 16 mars 1917. Me voilà emporté par le courant des idées, et je vis pleinement, hautement, sans ces sursauts de sensibilité qui mettent mon bonheur à la merci d'un soupçon, d'une émotion qui m'étreint et qui passe. Jacques a pris la parole au cours d'aujourd'hui. Il avait à examiner et à commenter cette pensée fameuse d'Henri Poincaré. Une loi scientifique n'est-elle qu'une règle d'action qui réussit? La façon dont il posa le problème sous sa forme générale, la foi absolue en la science se justifie-t-elle oui ou non, amena une vraie bataille. Il y eut d'une part tous les disciples du positivisme, tous les fervents du progrès, tous les admirateurs des découvertes modernes. Ils soutenaient que la loi scientifique avait une valeur réelle, une valeur objective, qu'elle n'était point seulement une création utilitaire de l'esprit, qu'elle ne se modifiait pas au fur et à mesure que des besoins nouveaux se faisaient sentir, qu'une loi acquise restait acquise. De l'autre, il y eut tous les disciples de Bergson, des femmes surtout, soutenant que le mécanisme utilitaire de l'esprit imposait ses lois aux choses, Ces choses se prêtant merveilleusement d'ailleurs aux lois de l'esprit. Donc, deux camps très nettement opposés se formèrent, bergsoniens contre positivistes, ou plutôt spiritualistes contre matérialistes. Pour soutenir sa cause, chacun dépensa de l'éloquence, logique, émouvante. L'un après l'autre demandait la parole pour réfuter ce que venait de dire son adversaire. Notre professeur, intéressé, bien qu'il eût noté nos écarts, suivait avec un sourire de complaisance cette joute oratoire. De temps en temps seulement, par un geste de la main, il demandait le silence, non point pour parler lui-même, mais pour donner la parole à un nouvel orateur. Et l'on trouvait des idées inattendues, des arguments qui frappaient juste. Ah, voilà bien ce que devrait être l'enseignement philosophique dans nos écoles, dans notre haute école de Sorbonne surtout, un exposé d'idées ayant une valeur pratique. On apprendrait au moins, en les défendant, ce qu'elles ont de viable, de vraiment vital. Une idée qui ne peut se vivre n'a pour nous aucune importance. Si nous discutions avec tant de feu la solution d'un problème qui, d'abord, ne semblait pas plus passionnant que les autres, c'est tout simplement que sa solution engageait notre vie. Nous le sentions inconsciemment, et nous trouvions pour la défendre des accents éloquents. Quoi que nous fassions, l'absolu habite nos âmes. On le reconnaît ou on ne le reconnaît pas. Voilà pourquoi les uns croient en Dieu, les autres n'y croient pas. Mais ils font alors du monde ou de la science l'absolu dont ils ont besoin. Deux manières différentes d'envisager notre destinée, qui révèlent de grandes différences d'âme. J'en suis effrayée en pensant à Jacques, mon ami, celui auquel je veux donner ma vie. Il n'était point dans mon camp aujourd'hui. Il ne partage pas mes croyances. L'amour complet, profond, sera-t-il possible entre nous? Sera-t-il durable? Je m'attriste à cette pensée. Un espoir pourtant reste, tenace, au fond de moi-même. Jacques n'a point d'expérience religieuse. C'est à moi de la susciter. Une expérience nouvelle peut changer une âme. Dimanche 18. Hier, Alice, en me quittant, me glissa confidentiellement à l'oreille. « Mad, voulez-vous que je vienne vous prendre demain à 9 heures? Je vous conduirai tout près de chez vous à une réunion d'étudiantes qui vous intéressera, j'en suis sûre. » J'acceptai le rendez-vous. Ce matin, à 9 heures exactement, Alice sonnait à ma porte. Elle m'emmena tout simplement jusqu'à la rue voisine et là, après avoir passé le pas d'une lourde porte cochère, je vis, au fond d'une cour grossièrement pavée, un petit hôtel se présentant de flanc. La façade devait donner sur un jardin que cachait une assez haute muraille. Une porte à droite donnait accès à un grand et large escalier. Alice monta la première, je la suivis. À mesure que je montais, il me semblait entendre de plus en plus distinctement une harmonie, comme un chœur de voix pure et blanche qu'accompagnait l'orgue au son grave. Je finis même par distinguer nettement les paroles du credo. Nous étions au premier. Sans se soucier de mon étonnement, Alice tourna rapidement le bouton de la porte et je restai stupéfaite devant le spectacle que j'avais sous les yeux. Il était gracieux, charmant, simple, émouvant tout à la fois. Un prêtre, vêtu des ornements sacerdotaux, un dominicain semblait-il, disait la messe devant une assemblée recueillie d'une cinquantaine de jeunes filles à peu près. L'autel d'abord attirait les regards. De chaque côté du tabernacle, de hautes gerbes de fleurs, entre les cierges allumés, masquaient un peu la fresque du fond, qu'un moment d'attention permettait pourtant de distinguer. C'était Jésus, entouré d'une auréole d'enfantine tête d'ange. Sur le mur à droite, un grand Christ expressif et douloureux expliquait par sa seule présence tout le sens du sacrifice. Cette pièce gaie, ensoleillée, formait comme le cœur de nos églises. Elle ouvrait par une grande baie sur la seconde pièce plus vaste, bien éclairée par de larges fenêtres sans rideaux, donnant sur un jardin où les oiseaux, eux aussi, exécutaient leurs concerts en louant Dieu. Sur des chaises alignées, priaient les étudiantes. Je pris place avec Alice au dernier rang. Je regardais curieusement mes compagnes et je les reconnaissais. Je les avais maintes fois coudoyées à la Sorbonne durant ces 5 mois, sans les voir. Et maintenant seulement, elles m'apparaissaient comme des sœurs. Quel lien puissant que celui de la prière en commun, pensais-je. Comme les âmes ont vite fait de se connaître et de s'unir quand elles montent vers Dieu. L'orgue se tut.
Les chanteuses regagnèrent leur place, et le prêtre, se tournant alors vers nous, dit « Mesdemoiselles, je ne vous parlerai pas aujourd'hui le langage accoutumé. Je ne vous parlerai pas de notre religion, de ses dogmes, de son histoire. Obéissant aux vœux touchants et pieux d'une des vôtres, je bénirai ce fanion qui symbolise ici pour vous toutes l'âme de vos frères soldats. Que le Christ soutienne et vivifie ces âmes. » Puis il saisit un rameau vert, le trempa dans l'eau bénite et prononça les paroles rituelles de la bénédiction. Je vis alors un fanion aux vives couleurs, attaché à un prie-dieu sur lequel personne n'était venu s'agenouiller. C'était la place du soldat qui se battait encore. Nul n'était digne de l'occuper. Sa sœur était une des jeunes filles qui priait là dans l'assemblée. Tremblant pour son frère, dont elle connaissait l'indomptable et téméraire courage, elle avait eu l'idée de lui faire don de ce pieux souvenir. Il venait d'être promu au grade de capitaine. Le petit drapeau béni par le prêtre le protégerait, lui et les hommes de sa compagnie, tandis qu'il volerait au combat. Puis la messe s'acheva. Les douces voix de nouveau se firent entendre jusqu'au moment où les trois coups de clochette retentirent, appelant les fidèles à la communion. Alors, sur deux longues files, les yeux baissés, les mains jointes, mes compagnes, les intellectuelles, allèrent s'agenouiller sur le banc de chêne, à la nappe blanche que leurs mains avaient artistement brodée. Un grand silence se fit, où l'on croyait percevoir comme des bruits d'âmes prenant leur vol vers l'infini. « Ite, missa est », murmura le prêtre. La messe était dite. Un bruit d'anneaux glissant le long d'une tringle, et le voile du temple déroula ses plis. Comme par enchantement, il n'y eut plus d'autel, plus de mystère, plus de sacrifice. Alors, comme les abeilles se retrouvent joyeuses à la ruche, après avoir recueilli les sucs enivrants des fleurs au soleil et se mettent à faire leur miel, ces jeunes filles, encore tout enivrées des grâces de la communion, vont, viennent, se cherchent, songent à la vie du corps après celle de l'esprit. Un thé tout doré, accompagné de bonnes tartines de beurre, les attend dans une autre pièce, attenant à la chapelle et qu'on appelle la bibliothèque. Je me mêle à leur troupe. Voilà de vrais camarades. On parle avec elles à cœur ouvert, sans jalousie, sans fausse honte. On échange des conseils, des joies, des préoccupations. Ah, si je les avais connues plus tôt, peut-être mon cœur ne se serait-il pas si témérairement engagé. Fin de la section 12, enregistrée par Pauline Latournerie. Section 13 de La science et l'amour par Léontine Zanta. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Pauline Latournerie. Lundi 19 mars. J'ai raconté à Jacques ma journée d'hier. J'étais encore toute vibrante de l'émotion que j'y avais ressentie, mais il n'a point partagé mon enthousiasme. Il témoignait même en m'écoutant de quelque impatience. « Mad, m'a-t-il dit, vous êtes une utopiste. La vie est autre chose qu'une rêverie mystique dans une chapelle où l'on respire l'encens et les fleurs, où l'on entend l'orgue accompagnant des voix de femmes. La vie demande des faits, du réel. L'amour l'embellit, mais l'amour aussi est réaliste. Il faut qu'il se prouve et vous semblez oublier que je vous aime, Mad, que je vis d'un doux souvenir, d'un rêve. Je vous revois sans cesse dans votre petite chambre. Comme il est loin pourtant ce jour où je vous avouais là mon amour, si vous me permettiez d'y revenir. » Je fis un léger mouvement de surprise à cette révélation. Ce souvenir brusquement évoqué éveillait en moi un sentiment très complexe où dominait l'inquiétude. Il le comprit, et se reprenant, il ajouta « Il faut bien que vous me fassiez connaître votre frère, vous me l'avez promis. Invitez-moi donc chez vous pour une tasse de thé et vous me présenterez à lui. » Cet appel fait à mon frère me rassura. Mais oui, Jacques avait raison, cette présentation s'imposait. C'était un de mes plus chers désirs d'ailleurs, le premier pas dans la voie où deux familles allaient marcher côte à côte, et j'étais heureuse à cette pensée. J'avais tout au fond de moi-même une âme de traditionnaliste. J'avais de l'indépendance d'esprit, de l'indépendance dans le choix de mon cœur, mais je tenais à ce que ce choix fut consacré par la tradition religieuse et familiale. J'ai donc accepté avec joie la proposition de Jacques et nous avons décidé que, le jeudi 22 mars, un thé serait organisé chez moi. Sous quelle forme, cela m'inquiétait un peu. Je ne voulais point donner l'éveil à Philippe, mais comme par ailleurs Philippe était très fin, qu'il avait des antennes pour saisir cet impondérable qui constitue l'âme de tout sentiment et de l'amour tout particulièrement, il me semblait difficile de lui bien cacher notre projet. Après un moment de réflexion, je me suis donc rallié à la solution la plus simple. Je dirai à Philippe, sans avoir l'air d'attacher au fait aucune importance, qu'un de mes bons camarades de Sorbonne viendrait jeudi travailler avec moi, après quoi nous prendrions tous trois le thé ensemble. Mardi 20 mars. Tout est convenu. Jacques viendra armé de son texte latin, de ses notes, jeudi vers 4 heures, et Philippe m'a promis d'honorer de sa présence le 5 o'clock de sa sœur. Mercredi 21 mars. Quelle journée de trouble! Je n'ai rien pu faire aujourd'hui. J'ai suivi distraitement mes cours, j'ai donné distraitement ma leçon. Je me fais une vraie petite fête de cette réunion de demain, et pourtant, à ma joie se mêle une sorte d'angoisse. Nous ne goûtons rien de pur. Nos cœurs, sans craindre, ne peuvent plus espérer. Est-ce le résultat de cette guerre abominable où chaque jour découvre quelque nouvelle et navrante ignominie? Ou bien est-ce la rançon que paie à notre raison notre nature déchue? L'ange tombé ne peut sans souffrance regagner son ciel orgueilleusement perdu. Un amour profond et pur, c'est notre ciel ici-bas. Il faut souffrir beaucoup pour le posséder. Jeudi 22 mars. J'avais raison de craindre, tout en espérant. Une grande joie a soulevé mon être, mais je la paie par un affreux malaise. Je ne me reconnais plus, je ne vois plus clair en moi. Je n'ai plus le cœur à prier non plus. Je vais dormir pour oublier. L'inconscient dans la nuit déchirera le voile dont s'enveloppe ce soir mon âme bouleversée. Peut-être alors demain déchiffrerai-je mieux son mystère. Vendredi 23 mars. Le mystère ne se déchiffre point et je souffre. Je vis un amour partagé. J'ai senti vibrer tout mon être et pourtant je ne suis pas heureuse. Jacques semble heureux, lui. Pourquoi cette différence? Sommes-nous donc déjà si loin l'un de l'autre? Après une heure d'intimité qui devait nous rapprocher, nous ne nous comprenons plus. Mais à quoi bon chercher davantage puisque mes yeux sans aide ne s'ouvrent plus? J'irai demain voir mon cher médecin, la lampe. Dimanche 25 mars. Le cœur me battait bien fort tandis que je grimpais chez elle. Lorsque je suis entrée dans son cabinet désert, je me suis sentie bouleversée. Les livres sur les rayons avaient une âme qui parlait à mon âme. Sur le bureau au cuir vert de plus en plus passé et taché, se trouvait le manuel d'Épictète. Je me suis mise à le feuilleter et sa voix m'a dit gravement « Il y a des choses qui dépendent de la raison, d'autres qui n'en dépendent pas. L'amour ne dépend pas de la raison. Si tu veux être mon disciple, tu ferais bien d'y renoncer. » Et voilà l'enthousiaste stoïcienne d'autrefois qui a repris vie à cette voix. Elle s'est érigée en juge de la sensitive, de l'amoureuse, qui depuis quelque temps régnait en tyran sur ma pauvre âme désemparée. Elle a jugé et blâmé. Peu à peu, mon malaise s'est dissipé. Il me semblait que je n'avais plus qu'un pas à faire pour redevenir moi-même. Raconter à la lampe, sans fausse honte, dans les moindres détails, l'incident de jeudi. Je venais à peine de prendre cette grave résolution que Mademoiselle Claire entra. « C'est vous, Mad, quelle bonne surprise! Eh bien, comment cela va-t-il? » « Mal, très mal, ma grande amie. J'ai fait le plongeon. J'ai commis une faute. » Sa figure exprima alors une telle inquiétude que je ne pus m'empêcher de sourire. J'ajoutai aussitôt « Oh, ce n'est pas une faute au sens que l'on donne d'ordinaire à ce mot, mais pour moi, votre disciple, une philosophe, avoir été faible comme je l'ai été l'autre jour avec Jacques, c'est tout de même avoir commis une faute, et une faute grave. Je me suis laissé emporter par mon cœur avec une fougue, une passion qui m'enlevait tout discernement. Et comme l'enfant, chargé d'un lourd fardeau, se met à courir malgré sa fatigue, dès qu'il aperçoit le but où il sera délivré, j'ai continué sans reprendre haleine. Jacques est venu chez moi, je dis. Nous étions seuls. Il m'a embrassé les mains, d'abord, puis les cheveux, puis le cou, la nuque, et je ne me suis pas défendue, et j'ai même répondu à ses baisers, par d'autres baisers. J'étais devenue une autre personne. C'est piteux, n'est-ce pas? Cette abdication complète du moi,
si courageusement, si patiemment édifié. Que voulez-vous ? Devant l'amour, je le reconnais, je me suis trouvé une femme quelconque, qui n'avait plus rien de la petite Made réfléchie, volontaire, consciente du bien et du mal que vous aviez formé. Jugez-moi, grondez-moi, c'est une défaite et votre enseignement ne méritait pas cela.
« Mais non, Made, me dit-elle doucement en me prenant la main. Votre histoire est une page de vie et l'on ne peut pas se dérober à la vie. Croyez-vous, parce que vous êtes une intellectuelle, parce que vous avez montré du goût et des aptitudes pour la philosophie, que vous soyez moins femme qu'une autre femme sans culture, sans formation solide? Croyez-vous que vous soyez incapable d'aimer? Que vous soyez moins humaine en un mot? Non, c'est une erreur qu'il faut dissiper. Chaque jour m'apporte des preuves du contraire et je ne suis pas encore au terme de ces expériences qui me déchirent le cœur, car je constate tant de souffrances dans votre manière d'aimer. Vous êtes, vous et vos pareils, des passionnés, des enthousiastes en amour. Vous parez l'être aimé de toutes les richesses que vous avez, dans le recueillement et la discipline, soigneusement accumulées. Vous les jetez à profusion à l'élu qui passe, car vos greniers sont pleins à déborder. On dirait que vous craignez d'y manquer de place pour la récolte nouvelle. Alors qu'arrive-t-il? Ce qui arrive à tous les riches qu'une nature généreuse a fait prodigue. Vous donnez sans compter, jusqu'à votre dernière obole, et lorsque devenu pauvre vous demandez à celui que vous avez comblé quelque juste retour, il n'entend point restituer, il fait la sourde oreille et passe, et vous restez seul, pauvre, misérable et désillusionné.
Oui, c'est bien cela. Je me suis sentie pauvre et seule l'autre jour. Jacques, en s'en allant, avait tout emporté. Un vide affreux me restait, que je ne pouvais combler.
« Ah, ma petite Made, me dit-elle alors en me serrant dans ses bras, j'ai peur que vous ne souffriez encore beaucoup. Mais vous ne pouvez plus reculer, il faut aller au terme de votre expérience. Ne jugez pas votre Jacques trop tôt, peut-être sera-t-il, en fin de compte, un pauvre comblé, reconnaissant. Mais je vous en supplie, ne gaspillez pas les trésors de votre âme, gardez plus ferme votre volonté.
Chère grande amie, où la tremper, cette volonté, pour qu'elle devienne la lame d'acier souple qui saura plier sans se rompre jamais?
En Dieu, ma petite amie, en ces sortes d'épreuves, la philosophie est impuissante. Tous les raisonnements sont vains contre les mouvements d'un cœur généreux et riche comme le vôtre. Mais la force mystérieuse et divine que l'on fait descendre en soi par l'appel de la prière est toute puissante. Apprenez à votre Jacques à se tourner vers Dieu. Il y a tant de formes de prière. Mais cet effort qu'il lui faut faire pour lutter contre un désir violent, contre l'entraînement des sens au nom d'un idéal, c'est un appel à une force d'un autre ordre que celui de la matière. C'est une prière à l'esprit, une belle prière, vraiment humaine. Qu'il la répète souvent, tandis que vous lui en expliquerez le sens, l'élevant peu à peu jusqu'à Dieu. Au même moment, on frappa à la porte. Mademoiselle Claire se leva. Je l'ai quittée tout émue, mais pleine de courage. La lampe n'avait fait que préciser ce que depuis longtemps, vaguement, je désirais. Il me fallait élever l'amour de Jacques, et pour cela, l'élever lui d'abord, moralement, avec l'aide de Dieu. Lundi 26 mars. Philippe est venu me prendre à la Sorbonne aujourd'hui. Il m'avait témoigné le désir de revoir Jacques, dont le caractère assez original pique sa curiosité. Il m'a dit l'autre jour « Jolie nature que celle de ton petit camarade, mais très complexe, très riche, étrangement mêlée. S'il a de la volonté, il marchera droit, mais s'il n'en a pas, il risque de dévier, et fort. » J'écoutais en souriant ces réflexions de Philippe, car je me disais en moi-même « Sois tranquille, petit frère. Jacques n'a pas de volonté, mais j'en aurai pour lui. » Et je goûtais à cette pensée un sentiment de joie un peu égoïste, mais infiniment doux. J'éprouvais aussi comme une sorte d'ivresse à découvrir la pauvreté de celui que j'aimais, car je me sentais assez riche pour combler tout le déficit. Nous sortions de l'amphithéâtre Turgot lorsque Philippe arriva. Ce furent aussitôt les présentations en règle. Alice, Germaine, Betty, Méruel, Jacques, nous étions au complet. Mais lorsque Philippe eut reconnu en Méruel un camarade soldat, un de ses frères ignorés qui avait partagé les mêmes périls aux heures graves, il ne vit plus que lui. Le régiment de Méruel avait en effet marché en liaison avec celui de Philippe. Ils avaient, sans s'en douter, participé ensemble à la prise de Neuville-Saint-Va, durant ces tragiques journées où ils se battirent corps à corps avec l'ennemi, à la grenade,
où chaque maison était une forteresse à prendre. Tout à leur souvenir, tandis qu'ils évoquaient cette horrible vision, je comprenais que dans ces âmes de soldats, la guerre avait laissé une ineffaçable marque. Ils étaient d'une autre race désormais. L'humanité en eux s'était renouvelée et je les admirais. J'enviais Betty. Je regrettais pour Jacques qu'il n'eût point à faire cette expérience féconde et forte. À table ce soir, à mon grand étonnement, Philippe me dit assez brusquement « Elle est exquise, ta petite amie Betty. Tu m'avais parlé de son âme courageuse et délicate, de son esprit parfaitement équilibré, mais tu ne m'avais rien dit de son charme physique. Je l'aime bien mieux que ton amie Alice. Elle est moins régulière sans doute, mais quelle figure expressive! Il y a de tout dans ce visage, de la bonté, de la malice, de la vie. Mais tu t'emballes, mon pauvre Philippe, m'écriai-je en riant. Et la place est prise par Méruel, je l'ai parfaitement deviné. A-t-il de la chance, ce Méruel? Voilà les compagnes qu'il faudra à ceux qui reviendront, et non pas ces intellectuels qui seront restés toute la guerre à consulter des fiches, à accumuler des notes dans les amphithéâtres. Betty aura vécu la guerre. Elle comprendra l'âme d'un soldat. Philippe, tu es injuste. Sans doute Betty a souffert comme vous. Elle a reçu des obus dans sa ville bombardée. Elle a vécu sous la mitraille, mais crois-tu que nous soyons restées indifférentes, nous les intellectuels, que nous ayons moins souffert, nous, sœurs ou fiancées? Notre vie d'études ne nous a point fermé le cœur. Notre imagination supplée au réel. Elle le crée même parfois avec une telle force qu'elle le dépasse. Et nous vibrons alors plus que les autres. Allons, Mad, ne te chagrine pas. Je te l'ai déjà dit, tu ne ressembles pas aux autres. Tu es unique. Mais ta Germaine Clotte, par exemple, n'est pas une femme. Elle est mal habillée, sèche, raide, maussade, et les autres, ces petites folles qui sortaient en riant bruyamment derrière vous, avec ces jeunes blancs-becs qui les escortaient. Crois-tu qu'elles vous donnent confiance en la génération qui vient? Et quand je pense que ce sont des femmes de ce genre que nous trouverons à notre retour, il n'y a vraiment pas de quoi rêver d'amour. À ces mots, mon cœur s'est serré. Je comprenais ce sentiment de grande mélancolie que venait d'éprouver Philippe. Il allait bientôt repartir, s'exposer peut-être au plus terrible danger, et il voyait réaliser devant lui par un autre un beau rêve d'amour qu'il avait lui-même maintes fois caressé. 29 mars. René Labasse est venu, soi-disant pour travailler, mais nous n'avons rien pu faire. L'heure n'est pas à philosopher, elle est surmenée. On parle d'offensive pour le mois prochain, et l'on évacue en hâte tous les blessés transportables. Jacques est nerveux en ce moment. Sa figure est tourmentée comme au mauvais jour. Il demande à me voir seul. Non, je ne céderai pas. Je ne le recevrai plus dans ma chambre sous aucun prétexte. Ce n'est point en pleine tempête qu'il faut déployer les voiles, lorsque déjà le vent les gonfle et fait pencher la barque. Mais quand il se lève et qu'elle commence à s'agiter, il est sage de prudemment les replier. Nous causerons en nous promenant en plein air. Dans l'espace infini, nos pensées iront plus haut, notre amour aura des ailes, et peut-être saurais-je mieux lui parler de Dieu. Samedi 31. Eh bien, j'ai su lui parler de Dieu, mais a-t-il bien compris sa voix? J'étais porté par une force invisible, et les événements semblaient conspirer avec moi. C'était aujourd'hui notre dernier jour de cours avant les vacances de Pâques, et comme par un fait exprès, tous nos camarades avaient manqué. Un mot de la mère de mon petit élève m'avait dispensé de ma leçon. L'enfant aurait congé ce soir, car dans l'agitation du départ, il travaillerait mal. Le temps était radieux, une de ces belles journées de printemps où le vent est encore un peu rude, mais où le soleil, avec sa jeune chaleur, vous pénètre jusqu'aux os. Nous sortions de la rue de la Sorbonne pour entrer dans la large rue Soufflot, et je me demandais où porter nos pas. En haut, le Panthéon se dressait, éblouissant dans sa blancheur de pierre, mais je ne me sentais point attiré par son orgueilleuse et païenne majesté. Je savais pourtant dans son ombre un petit coin merveilleux d'art, de recueillement et de prière, un coin de vieille Gaule où peut-être avec Jacques il eût été émouvant de me promener, Saint-Étienne-du-Mont. Ce bijou de cathédrale gothique, à côté du vieux monastère et des petites rues aux noms symboliques, Clovis, Clotilde, Clotaire. Clotilde avait converti Clovis, sans doute, mais ce n'était point derrière le Panthéon. Jacques, au contraire, avait connu et aimé ces gloires du Panthéon. Il aurait eu beaucoup de peine à se laisser convertir par Clotilde, tandis que la nature, la simple nature, des arbres, du feuillage, répondraient bien mieux à son âme. Je l'entraînai vers le jardin du Luxembourg, tout baigné de la lumière rose et mauve d'un magnifique couchant. Nous prîmes deux chaises
et accoudé à la balustrade de pierre qui entoure le gracieux quinconce aux statues blanches, au parterre fleuri, devant le globe rougissant qui peu à peu s'enveloppait de ses voiles, Jacques s'écria « Qu'il fait bon ici, Mad, avec vous, devant ce ciel en fête, sur lequel la nuit jette déjà son ombre paisible. Tout est doux, tendre, pacifiant. Je sens le calme descendre en moi, en même temps que je reprends confiance et force. J'ai passé de bien mauvais jours, Mad. J'étais découragé par ma faiblesse, par la violence de mes désirs qui m'enlevaient cette force morale qu'il faudrait pour vous attendre et vous mériter. Je voulais parler à mon père, et je ne l'ai point encore fait. À plusieurs reprises, j'ai tenté d'entrer dans son cabinet, avec la volonté de tout dire, et puis, quand je me trouvais en face de lui, et que je le voyais si préoccupé devant son bureau chargé de dossiers, quand je l'entendais me dire d'un air distrait « C'est toi, Jacques, que veux-tu ?» Les mots que je voulais prononcer s'arrêtaient sur mes lèvres, et c'est une phrase banale que j'exprimais. « Je manque de volonté, Mad, et c'est une offense que je vous fais. Je me trouve lâche, indigne de vous, et je me demande alors si je suis bien celui que vous deviez choisir pour être le compagnon de votre vie, vous si courageuse, si ferme, si grande. Et pourtant je vous aime, oh, oui, plus follement que jamais. Vous m'êtes toujours présente, avec une telle réalité parfois, que je crois sentir vos lèvres. « Jacques, ne dites pas cela, » m'écriai-je avec un ton de reproche. « Vous me rappelez ma faiblesse. Si vous saviez comme j'ai regretté ces minutes de griserie. J'ai souffert de ce souvenir comme d'une faute. Nous avons mal agi, Jacques. Nous avons mal compris l'amour. Pour que l'amour donne vraiment ce qu'il promet et ce qu'il doit donner, il faut le conquérir. Il ne faut pas que ce soit lui, génie de l'espèce, qui s'impose à nous en conquérant. Le sentiment qu'il inspire doit être si haut, si pur, si beau, si profond, si personnel, qu'on ne l'atteigne qu'après la lutte, la souffrance, le sacrifice. Il y a l'amour, qui est un dieu tyrannique et cruel, auquel, en esclave, il faut tout sacrifier, et l'amour conscient, personnel, choisi, que l'on crée jour par jour, avec son âme, au travers de laquelle, comme un pur diamant, il se cristallise. Voilà pourquoi Jacques, pour vraiment aimer, il faut être pur. Et pour être pur, il faut se baigner à la source d'eau vive, à celle que cherchait encore la Samaritaine après l'expérience de 5 amants. Jésus la lui montra. Mais moi, qui ne crois plus en Jésus, où irai-je trouver l'onde pure? Mon âme ne sera donc jamais le beau diamant où l'amour en s'enfermant se cristallise? Mad, vous me reprochez de ne point savoir aimer, peut-être avez-vous raison. Oui, je le sens maintenant, je vous ai fait de la peine l'autre jour. J'étais égoïste, je vivais dans une sorte d'ivresse. Lorsqu'elle s'est dissipée, j'ai bien senti le vide, mais pour y remédier, j'aurais voulu m'enivrer de nouveau. Votre attitude réservée m'a fait comprendre que nous n'étions plus à l'unisson. Je vous en ai voulu, j'ai eu tort. Mad, je veux bien épouser votre âme d'abord, mais donnez-moi le moyen de le faire. Élevez-vous avec moi jusqu'à Dieu. Revenez à votre foi de jadis, elle n'est pas morte. Si cela était, vous n'en parleriez pas tant. Vos arguments de libre penseur ne sont point définitifs. Ils ne valent pas plus que ceux des croyants que vous combattez, et ils ont le tort de fermer votre cœur. Laissez-le s'ouvrir de nouveau à votre foi d'enfant. Réveillez-la. Rien ne meurt en nous, vous le savez, puisque c'est la loi même de notre conscience qu'elle vit du passé que tour à tour elle ensevelit ou ressuscite. Ressuscitez ce passé, Jacques, pour notre amour, pour moi. » Jacques avait baissé la tête tout le temps que je parlais. À ce dernier mot, il la releva brusquement, en me disant presque avec violence « Eh bien, pour vous, j'essaierai. On se jette bien à l'eau pour sauver une inconnue qui se noie. Moi, je m'y jetterai pour sauver un amour sans lequel je ne puis plus vivre. Je ne raisonne plus. Je m'abandonne à votre volonté, Mad. Vous êtes la seule responsable. » Ce soir, cette dernière parole de Jacques me revient lourde, toute chargée de conséquences. N'ai-je pas été trop vite sur cette pente de la conversion? J'ai presque violé son âme. Il fallait l'incliner d'abord. Ma nature impatiente, volontaire, est venue cette fois encore imposer comme un dogme son expérience. C'est une erreur. Il n'y a qu'une expérience qui vaille, la nôtre. Mais alors j'ai commis une faute? Mon Dieu, que je souffre de la crainte d'avoir compromis votre œuvre. Une fois de plus, c'est en vous que je devais m'abandonner. Votre grâce pouvait plus que mon orgueilleuse volonté qui s'enivre de son effort. Fin de la section 13. enregistré par Pauline Latournerie.